Et pendant ce temps-là, ben, il y a la guerre. Oui, bien sûr, il y a nos sujets, il y a nos bébelles. Il y a les trucs au Québec, les trucs qui n'intéressent personne d'ailleurs sur la boule. La CAQ, François Legault, je veux dire, vous allez ailleurs, ça n'existe pas, là. Mais on aime beaucoup se regarder le nombril. Mais c'est comme ça, puis peut-être que c'est comme ça dans d'autres juridictions également. L'actualité très, très locale. Mais si on y va avec un grand angle, il y a quand même de gros enjeux. Il y a des enjeux financiers également. Si vous regardez vos placements, vous avez perdu, d'après moi, 15 % en valeur. Si vous n'avez pas perdu 15 % d'après moi, c'est que vous jouez au Monopoly, là, parce que du vrai argent, il s'en est perdu. Ça coûte cher pour l'essence et on veut tenter de comprendre davantage. Donc, on va parler avec des gens qui connaissent le baratin et qui connaissent le métier. J'adore lui parler, puis d'ailleurs, ça a été un guide extraordinaire lors de mon premier voyage en Israël. Que dire? Ça a été un guide extraordinaire. Raphaël Jérusalemi. Raphaël, salut, comment ça va?
Ça va, et vous?
Très bien. Tu t'en souviens de notre voyage en Israël, d'ailleurs, où tu nous avais invités à visiter une station de radio, si je ne m'abuse, où on pouvait d'ailleurs entendre parler français et hébreu, bien évidemment. Tu t'en souviens de ça? Ça fait longtemps, là. Ça fait quoi, une douzaine d'années à peu près?
Oui, exactement. Ça existe toujours, d'ailleurs.
C'est bon. Raphaël, est-ce que tu pourrais... Comment pourrais-tu décrire la situation actuelle, pas juste la situation du conflit opposant Israël au Hezbollah, mais évidemment États-Unis et Iran? D'entrée de jeu, question très large, comment pourrait-on illustrer là où on en est aujourd'hui dans le moment présent?
Alors, aujourd'hui, face à l'Iran, il y a deux aspects. Un aspect sur le conflit lui-même avec l'Iran, où on passe la phase militaire. On a détruit maintenant beaucoup de l'infrastructure militaire, et pour affaiblir encore plus le régime en Iran, il faut maintenant détruire l'infrastructure civile, économique, affaiblir économiquement le régime, c'est-à-dire frapper des usines civiles de l'acier, du pétrole, pour essayer de faire tomber le régime peut-être à la longue, si c'est l'objectif. Le deuxième aspect, c'est l'aspect mondial, comme on en a parlé, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la menace, elle est pour le monde entier. C'est pas juste les Israéliens qui sont la cible ou les Américains. C'est le monde entier qui est visé, avec l'augmentation du prix du pétrole, avec la panique sur les marchés financiers. Et le monde doit se réveiller et comprendre que l'Iran a toujours était une menace mondiale, de par le chantage énergétique qu'ils font, de par leur propre projet. Leur projet, c'est d'établir la loi islamique sur le monde entier, hein, c'est une guerre sainte, et donc le monde entier est visé. Malheureusement, le monde entier ne fait rien. Ils laissent les Israéliens se débrouiller tout seuls. Aujourd'hui, on a les Américains avec nous, demain, ils seront peut-être plus là, et nous, on restera à nous débrouiller tout seuls face à toutes ces menaces, que ce soit l'Iran, que ce soit le Hezbollah au sud du Liban, le Hamas à Gaza, ce sont des terroristes, ce sont des gens qui instaurent la terreur, et pas seulement la terreur contre Israël ou contre d'autres pays arabes, car aujourd'hui les pays arabes sont visés aussi, mais pour le monde entier. Et c'est ça que le monde entier ne comprend pas, que c'est une menace globale.
La une de la BBC actuellement, c'est Tehran warns of broader attacks again after Trump says US will hit Iran extremely hard. Hier, il a dit on va frapper l'Iran de manière extrêmement rude. Évidemment, c'est le langage, mais selon ce que tu dis, Raphaël, c'est que ça pourrait être justement les infrastructures énergétiques et tout le complexe industriel de l'Iran. Si on peut tenter de décoder, quel est ton décodage de ça, de cette une-là de la BBC actuellement là?
Alors, oui, alors le décodage est difficile parce que il faut décoder le cerveau de Donald Trump.
Ce qui n'est pas évident.
voilà. Ouais. Et le problème, c'est quel est l'objectif final de ce conflit? Si l'objectif final de ce conflit, c'est de faire chuter une fois pour toutes le régime des Mollahs et de libérer le peuple iranien pour qu'il y ait en Iran un régime normal, moderne, démocratique, alors il faut aller jusqu'au bout, et ça ne suffit pas d'avoir une victoire militaire, il faut effectivement affaiblir le plus possible le régime et créer une situation qui permettrait soit un soulèvement populaire des Iraniens, soit un coup d'État pour renverser le régime. Mais si, et c'est tout à fait possible, Donald Trump veut se contenter d'un acquis partiel, ça veut dire il va négocier avec le régime en place, le régime des Mollahs, un accord sur le nucléaire, un accord comme si hein, ouvrir le détroit d'Ormuz pour le commerce maritime mondial. Il pourrait se contenter de cela sans aller jusqu'au bout, sans faire tomber donc le régime répressif. Et ça, on n'est pas certain de jusqu'où il est prêt à aller. D'un autre côté, on voit qu'il envoie toutes ses troupes, des Marines et encore d'autres avions pour aller frapper plus fort. Donc, on va voir les jours qui viennent ce qu'il va décider. Je rappelle pour terminer quand même que au départ de ce conflit, on a pensé que Donald Trump n'aurait pas le cran, le courage de le commencer, ce conflit. Qu'il aurait peur de rentrer dans un conflit de si important face à une puissance militaire comme l'Iran. Or, il l'a fait, et donc il peut encore nous surprendre et peut-être véritablement aller jusqu'au bout de ce travail.
Au plan géostratégique, est-ce souhaitable que les Américains procèdent à un débarquement partiel, un débarquement limité? Et quand je dis débarquement, on s'imagine évidemment des débarquements historiques, c'est pas du tout de ça dont je parle. On parle d'un débarquement ciblé et de la prise de contrôle, par exemple, de l'île de Kharg. Au plan géostratégique, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, investir l'île de Kharg, c'est faisable, bien qu'on puisse se contenter en fait d'un blocus. Hein, on peut aussi entourer, c'est pas très grand. L'immense marine américaine dans la région peut aussi faire un état de siège autour de l'île. Mais si on veut prendre plus de risques, effectivement, les Marines, à mon avis, sont tout à fait capables d'investir l'île de Kharg et de la contrôler. Un autre aspect des forces terrestres, c'est, on vient d'en parler, soit un coup d'État, soit un soulèvement populaire en Iran même, à Téhéran. Et là, il faudra aussi qu'il y ait un coup de main de forces spéciales. On ne parle pas d'une grande invasion, ça c'est pas possible, mais des forces spéciales, des commandos qui viendront aider la population à renverser le régime seront nécessaires parce que malheureusement, ce régime est très bien armé, les gardiens de la révolution sont nombreux et armés et font régner la terreur, et la population iranienne à elle seule ne peut pas s'en débarrasser, il faut lui donner un coup de main. À moins que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y ait un coup d'État de l'armée régulière iranienne qui s'entend pas très bien avec les gardiens de la révolution. Et à ce moment-là, si les soldats de l'armée régulière iranienne suivent leurs généraux, ils pourraient renverser et prendre le pouvoir.
Ça, c'est bon. Est-ce que les Houthis représentent une véritable menace?
Absolument. Les Houthis sont très bien armés. Ils sont, sur le plan du nombre de combattants, 200 000, très bien armés. Et ces 200 000, d'ailleurs, ont même envisagé de passer par la Jordanie et d'aller investir Israël à ce point-là. Et c'est une grande armée. Mais en plus, ils ont des armements sophistiqués, des missiles balistiques, des drones, des missiles de croisière, qui ont été en majorité fournis, justement, par l'Iran. Et je rappelle que les Houthis, pour montrer à quel point ils sont une menace sérieuse, ont quand même réussi à vaincre l'Arabie Saoudite. Il y a eu une guerre de l'Arabie Saoudite contre les Houthis du Yémen, et en fin de compte, l'Arabie Saoudite a abandonné.
Le Yémen n'existe pas vraiment. Je veux dire, il n'y a pas de gouvernement qui peut les contrer. Eux contrôlent les territoires, contrôlent des bases, ils contrôlent des milices, ils contrôlent la pointe, mais le Yémen comme tel, c'est un État qui est un peu déchu, non?
Voilà, il n'y a plus véritablement de Yémen. Ça. Il est coupé d'ailleurs en oui. Trois. Hein. Il y a la partie avec le gouvernement soi-disant légitime, mais qui n'a plus aucune force, aucun pouvoir, un peu comme le gouvernement libanais, et une partie plus ou moins autonome qui est soutenue par les Émirats, et la partie donc des Houthis du Yémen, qui eux contrôlent en plus la capitale, Sanaa, et qui sont donc très puissants.
Dernière question, Raphaël Jérusalemi. La question des opinions publiques, est-ce que ça vient jouer? Bon, on a d'un côté les États-Unis, l'opinion publique n'est pas du côté de Donald Trump. Les Américains n'ont jamais vraiment souhaité partir en guerre, une guerre qui d'ailleurs pourrait s'éterniser, c'est risqué. Les Américains maugré également quand ils vont faire le plein. ça c'est clair. Mais le gouvernement israélien a l'appui, corrige-moi Raphaël, ou semble avoir l'appui, un appui important là, dans sa guerre ou dans son conflit contre le Hezbollah. Il y a deux trucs là, complètement différents. Il y a un appui, Netanyahou, populaire, mais Trump n'a pas l'appui populaire. Est-ce que je me gourre ou c'est mon analyse est correcte?
Non, l'analyse est correcte, c'est tout à fait exact et c'est très simple. L'opinion qu'on va se former de ce qui se passe va dépendre de l'information qu'on reçoit. Or, l'information que le public américain ou canadien et même européen reçoivent, c'est ne donne pas une image véritablement précise du problème. Et pour eux, dans l'esprit d'un Canadien aujourd'hui ou d'un Américain, ce conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui se passe loin, loin, au Proche-Orient. C'est à voir entre les Juifs et les Arabes, c'est à voir entre les chiites et les sunnites. C'est quelque chose de lointain. Et ils ne se rendent pas compte. Et c'est ça la différence avec les Israéliens. Mais évidemment, les Israéliens ont l'excuse qu'ils sont tout près.
Et vous avez des missiles qui tombent sur vos têtes.
Qui concernent tout le monde.
Et vous avez des missiles qui tombent sur vos têtes à Tel Aviv et ailleurs. Effectivement, vous en ressentez
l'impact. Oui, mais il y aura bientôt des attentats. Il y en a déjà eu d'ailleurs, et il y en aura encore des attentats au Canada et aux États-Unis. Il y aura une augmentation du coût de la vie, des problèmes économiques. Il y aura une menace qui va se préciser de la part de l'axe sino-russe dont les Iraniens sont un maillon important, tout cela va finir par être inquiétant, même pour un Canadien qui est assis à Montréal. Il sera en fait, et il ne s'en rend pas compte, une cible aussi. Et à long terme, comme je l'ai dit, le rêve des islamistes, des salafistes, c'est la charia sur le monde. Ça veut dire qu'à Montréal, les femmes devront être voilées et tout le monde devrait aller à la mosquée. C'est quand même le plan. Et on croit qu'ils ne sont pas capables de le faire. On espère qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais eux ont bien l'intention de tenter tout pour le faire.
Merci infiniment, Raphaël Jérusalemi. Et ça sera un plaisir de se reparler.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Bon week-end.
Et bonjour au Québec.
Merci. Bye-bye. Super, bye. Super personnalité pour vrai. Raphaël est super branché, évidemment, avec ses connexions, entre autres avec le Mossad, les services de sécurité et tout.